Chapitre 23. Le scepticisme de Ruth à l'égard de son talent d'écrivain ne la dévalorisait nullement aux yeux de Martin. Pendant le répit que lui avaient procuré ses récentes vacances, il s'était livré à de longues introspections et avait appris beaucoup de choses sur lui-même. Il avait découvert qu'il aimait davantage la beauté que la célébrité, et que s'il rêvait parfois de gloire, c'était surtout pour Ruth. C'était pour elle qu'il voulait impressionner le monde, pour être à la hauteur, comme il disait, afin de gagner l'estime de la femme qu'il aimait et de la rendre fière de lui. Quant à lui, il chérissait passionnément la beauté et sa seule ambition était de la servir au mieux. Et plus encore, il chérissait Ruth. L'amour était à ses yeux le suprême idéal. C'était l'amour qui était à l'origine de sa révolution intérieure, qui avait transformé le rude marin en étudiant et en artiste. Il primait donc l'art et l'étude, il dominait tout. Il avait déjà compris que son intellect surpassait celui de Ruth, comme il surpassait celui de ses frères ou de son père. Son bagage universitaire et son pimpant diplôme n'y faisaient rien. Jamais elle ne pourrait espérer posséder l'équivalent du savoir, de la compréhension du monde, de l'art et de la vie qu'il avait acquis, lui, l'autodidacte. Mais rien de tout cela ne pouvait altérer son amour pour elle, ni l'amour de Ruth pour lui. L'amour était trop noble, et Martin était un amant trop loyal pour laisser son sens critique affadir ses sentiments. Quel rapport y avait-il entre l'amour et leurs vues divergentes sur l'art, la morale, la Révolution française ou le suffrage universel? C'était là des faits de raisonnement, et l'amour était suprarationnel. Le cœur transcendait la raison. Lui mésestimait l'amour, mais il le vénérait. Il lui dressait un autel sur les plus hautes montagnes. C'était la sublimation de l'existence, le nec plus ultra de la vie, la perle rare. Grâce à l'école de philosophie scientiste qu'il affectionnait, il connaissait la signification biologique de l'amour. Mais il savait aussi, grâce à la même école de pensée, que l'amour permettait à l'organisme humain d'accomplir ses plus grands desseins, et que, loin de le révoquer en doute, il fallait l'accepter comme la plus haute valeur de la vie. Il considérait donc que l'amant était un être béni entre tous et se plaisait à imaginer le fol amant de Dieu s'élevant au-dessus des préjugés du bas monde, au-dessus de l'argent, de l'opinion publique, du succès, s'élevant au-dessus de la vie même et mourant sur un baiser. Tandis que ses réflexions mûrissaient en lui, il travaillait sans relâche, ne s'interrompant que pour aller voir Ruth et vivait en spartiate. Sa petite chambre lui coûtait 2,50 $ par mois. La logeuse était une veuve portugaise, Maria Silva, une virago aussi travailleuse que colérique, qui faisait pousser sa marmaille tant bien que mal et noyait de temps à autre son chagrin dans l'aigre clairet qu'elle achetait à l'épicerie saloon du coin pour 15 cents le gallon. Martin, qui l'avait d'abord prise en grippe pour son langage de charretier, en vint bientôt à l'admirer pour sa vaillance. Il n'y avait que 4 pièces dans la petite maison. L'une d'elles, le salon, égayé par un tapis de couleur et endeuillé par un faire-part de décès et le portrait souvenir d'un de ses nombreux bambins morts, était strictement réservé aux visites. Les persiennes étaient toujours baissées et l'accès en était interdit à sa petite tribu aux pieds nus, qui ne pénétrait dans le lieu saint que pour les grandes occasions. Tous mangeaient dans la cuisine, où elle lavait, amidonnait et repassait tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, car une bonne partie de ses revenus provenait des travaux de blanchisserie qu'elle effectuait pour ses voisins plus prospères. Restait la chambre à coucher, aussi exiguë que celle de Martin, où elle s'entassait avec ses 7 mioches pour dormir. Martin, qui, à travers la fine cloison, avait droit chaque soir à un concert de vagissements, de protestations et de piaillements au moment du coucher, ne put jamais comprendre comment elle s'y prenait pour les caser tous. Maria tirait aussi un maigre revenu de ses 2 vaches, qu'elle trayait matin et soir et envoyait paître dans les terrains vagues ou brouter l'herbe des trottoirs sous la garde d'un ou plusieurs de ses gosses mal fagotés, dont la tâche consistait principalement à guetter l'arrivée des employés de la fourrière. Dans sa propre chambrette, Martin vivait, dormait, étudiait, écrivait et faisait le ménage. Devant l'unique fenêtre qui donnait sur le perron, il y avait une table de cuisine qui lui servait également de bureau, de bibliothèque et de console pour sa machine à écrire. Le lit, contre le mur du fond, occupait à lui seul les 2/3 de la place. La table était flanquée d'un côté d'une méchante commode dont le vernis s'écaillait un peu plus chaque jour, notamment sous l'effet de la vapeur quand Martin chauffait sa tambouille, de l'autre, d'une cuisine rudimentaire constitué d'un réchaud à pétrole monté sur une caisse à biscuits secs tenant lieu de vaisselier, d'une étagère pour les provisions et d'un seau, lequel était destiné au transport de l'eau que Martin devait aller puiser au robinet de la cuisine de Maria. Sa bicyclette était suspendue à un crochet fixé au plafond, au-dessus de son lit. Au début, il avait voulu la ranger à la cave, mais les assauts de la tribu Silva, qui s'amusait à lui dévisser la selle et à dégonfler ses pneus, l'en avaient dissuadé. Il avait ensuite essayé le porche d'entrée, mais avait dû y renoncer également à cause des intempéries et s'était finalement résigné à l'accrocher dans sa chambre. Il serrait ses habits et les livres qui ne tenaient pas sur la table dans un petit placard. Il avait pris l'habitude de rédiger des notes de lecture et il en avait tant accumulé qu'il était obligé de les suspendre sur des fils à linge tendus en travers de la pièce. Tout cela rendait ses déplacements particulièrement difficiles. Il ne pouvait pas ouvrir la porte sans fermer préalablement le placard et vice-versa. Aucun trajet en ligne droite ne lui était permis. Il était contraint de zigzaguer pour aller de la porte à la tête de lit, ce qui, dans le noir, représentait parfois un exercice périlleux. Une fois réglé le problème des portes, il devait faire un écart à droite pour éviter la cuisine, puis à gauche pour éviter le pied du lit. Lorsque ce second mouvement était exécuté avec trop de brusquerie, il butait contre le coin de la table et terminait sa course dans une sorte de canal formé par l'autre table et le lit. Quand l'unique chaise de la pièce était à sa place normale, le canal n'était pas navigable, si bien qu'il était forcé de la poser sur le matelas quand il ne s'en servait pas. Mais il s'en servait presque tout le temps, cuisinait assis, lisait pendant que l'eau bouillait et continuait à écrire en faisant frire son steak. L'espace dévolu à la cuisine était si réduit qu'il pouvait atteindre tout ce dont il avait besoin sans bouger de son siège. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il cuisinait assis. Dès qu'il s'activait debout, il s'en mêlait les pieds. Outre qu'il avait un estomac à toute épreuve, son excellente connaissance des aliments lui permettait de choisir des denrées à la fois nourrissantes et bon marché. La soupe de pois, les pommes de terre, les haricots gros et bruns et cuisinés à la mexicaine figuraient couramment à son menu. Le riz, cuit comme aucune ménagère américaine ne savait le faire, apparaissait au moins une fois par jour sur sa table. Les fruits séchés étaient moins chers que les frais, il en avait toujours un pot à portée de la main et les étalait sur son pain en place de beurre. À l'occasion, il s'offrait un morceau d'aloyau ou un os à moelle et buvait du café deux fois par jour, sans crème ni lait. Le soir, il préférait le thé, mais savait remarquablement préparer l'un et l'autre breuvage. Il était obligé de surveiller ses dépenses. Ses vacances avaient absorbé presque tout ce qu'il avait gagné à la blanchisserie, et ce qu'il appelait sa littérature alimentaire ne le nourrissait pas encore. Sauf lorsqu'il s'absentait pour voir Ruth ou sa sœur Gertrude, il vivait en reclus, abattant en une journée le travail qu'un homme ordinaire eût accompli en trois. Il ne dormait que 5 heures par nuit et œuvrait 19 heures d'affilée chaque jour. Seul un individu doté d'une constitution de fer pouvait supporter une telle cadence. Il ne perdait pas un instant. Sur son miroir, il y avait des listes de vocabulaire qu'il révisait systématiquement en se rasant, en s'habillant ou en se peignant. Des listes semblables étaient affichées au-dessus de son réchaud et il les apprenait pareillement en faisant la cuisine ou la vaisselle. Quand il les savait par cœur, il les remplaçait par d'autres. Dès qu'il rencontrait un mot inconnu ou mal connu dans ses lectures, il le notait et quand la série atteignait un certain nombre, il la recopiait à la machine pour l'épingler au-dessus du miroir ou sur le mur. Il emportait même les fiches dans ses poches afin de les réviser à ses moments perdus, dans les rues ou dans les files d'attente chez le boucher ou l'épicier. Il ne s'arrêta pas là. En lisant les œuvres des écrivains reconnus, il notait leurs trouvailles, étudiait leurs méthodes, leurs procédés narratifs, leurs techniques d'exposition, leurs figures de style, leurs sciences du contraste et de l'épigramme, et en dressait de nouvelles listes qu'il potassait comme un collégien. Il ne singeait pas. Il cherchait des principes de base, des modèles de construction, des tournures littéraires qu'il essayait ensuite d'appliquer, en bon élève, dans des contextes originaux. Il collectionnait aussi des listes de phrases fortes, évocatrices, décapantes comme l'acide et brûlantes comme la flamme ou riches et pleines de sève comme de luxuriantes oasis dans le désert aride du langage ordinaire. Il voulait avant tout comprendre le cheminement de l'auteur, savoir comment celui-ci avait fait pour pouvoir s'en inspirer et créer à son tour. Il ne se satisfaisait pas de contempler la beauté. Il la disséquait dans son petit laboratoire, parmi les odeurs de cuisine et les criailleries de la tribu Silva. Il en fouillait l'anatomie pour apprendre à la modeler au plus juste. Il était ainsi fait qu'il ne pouvait rien produire sans comprendre. Il était incapable de travailler à l'aveuglette, dans le noir, sans regarder son ouvrage et en se fiant à sa seule bonne étoile pour parvenir à un résultat. Il ne croyait pas au hasard. Il voulait toujours connaître le pourquoi et le comment. Il avait le génie de la création et, dès avant de commencer un récit ou un poème, il avait besoin de se représenter l'ouvrage déjà terminé en imagination, d'en pressentir les couleurs et la fin, sans quoi ses efforts eussent été voués à l'échec. Cela ne l'empêchait pas, cependant, d'apprécier les alliances de mots aléatoires, les phrases spontanées et enlevées, dans lesquelles il découvrait des connotations et des significations imprévues qui l'enchantaient. Il pouvait disséquer la beauté tant et plus, rechercher inlassablement les principes qui la sous-tendaient. Il savait que, quoi qu'il fît, la beauté serait toujours fondamentalement mystérieuse et impénétrable. Il savait, d'après son Spencer, qu'aucun homme jamais n'atteignait à la connaissance ultime des choses, que le mystère de la beauté n'était pas moins grand que celui de la vie, que vie et beauté étaient la trame et la chaîne d'une même étoffe, dont il n'était lui-même qu'un lambeau tissé de rayons de soleil, de cheveux d'ange et de poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles fut d'ailleurs le titre d'un essai qu'il écrivit, fort de ses considérations, pour brocarder la critique, non dans son principe, mais dans la personne de ses auteurs. Un texte brillant, profond, philosophique, émaillé de notations humoristiques, qui fut immédiatement refusé par toutes les revues auxquelles il l'envoya. Cette nouvelle déconvenue n'entama pas sa sérénité. Il avait pris l'habitude de se ruer sur sa machine à écrire dès qu'un sujet mûrissait dans son esprit, sans se laisser abattre par les rebuffades des rédacteurs qui ne l'affectaient que de façon éphémère. Le plaisir d'écrire primait la publication. Nouer ensemble les fils épars de ses pensées pour en confectionner un tissu homogène, voilà ce qu'il passionnait. En écrivant un essai comme celui-là, il se libérait et préparait son esprit pour de nouveaux matériaux, de nouveaux problèmes. C'était une pulsion très semblable à celle qui pousse les hommes et les femmes tourmentés par des griefs réels ou imaginaires à sortir périodiquement de leur mutisme pour dire ce qu'ils ont sur le cœur jusqu'au dernier mot.